Mes frères bien-aimés, les apparitions du Christ après sa résurrection sont étonnantes. À chaque fois, ses proches ne le reconnaissent pas. Déjà le matin de la résurrection, Marie-Madeleine l'a pris pour le jardinier, avant que celui-ci ne prononce son nom et qu'elle le reconnaisse à travers son amour affectueux qui transparaît jusque dans son timbre de voix. L'après-midi de la résurrection, les deux disciples d'Emmaüs l'ont pris pour un voyageur comme un autre, avant que celui-ci ne dise la messe et qu'il le reconnaisse à travers son amour absolu qui se manifeste dans ce geste eucharistique. Et aujourd'hui, ce sont sept de ses disciples qui le prennent pour un promeneur matinal, avant que celui-ci n'accomplisse une pêche miraculeuse et qui le reconnaisse à travers son amour prévenant qui a déjà fait griller quelques poissons sur un petit feu. Ces trois situations sont déroutantes, n'est-ce pas? Voilà des gens qui ont côtoyé un homme de près, vivant et dormant avec lui pendant 3 ans, et qui en 3 jours ne le reconnaissent plus. En fait, ce n'est pas que la mémoire fasse défaut à ses amis du Christ, et qu'ils aient oublié ses traits en quelques heures, mais c'est qu'après sa résurrection, le Christ a un nouveau corps, ce fameux corps glorieux que nous aurons d'ailleurs tous après la fin du monde, lorsque nous vivrons sur la nouvelle terre que le Seigneur nous aura créée. Eh bien, ce matin, arrêtons-nous donc quelques instants sur cette question du corps glorieux, dont on ne parle que très rarement, et qui est pourtant capitale, puisqu'elle nous révèle ce qui nous attend pour l'éternité. Arrêtons-nous sur cette question en parcourant les témoignages qui se trouvent dans les évangiles et que je viens de mentionner. Ce qui saute aux yeux, c'est que le corps glorieux de Jésus est différent de son corps historique, puisque ses amis ne savent pas que c'est lui quand il vient à leur rencontre. C'est comme si Jésus se manifestait avec des traits différents des siens. L'évangéliste saint Marc dira même que le Christ se manifeste sous différents aspects en fonction de la personne vers qui il se dirige. Voyez, ce corps glorieux a l'air assez malléable. Pour autant, en fin de compte, le Christ est à chaque fois démasqué. Et c'est ça qui va nous intéresser ce matin. Comment est-il démasqué malgré son corps hétérogène? Eh bien, il est à chaque fois confondu grâce à des particularités qui lui appartiennent en propre et qui découlent de son amour. Pour Marie-Madeleine, c'est le timbre de sa voix, cette voix qu'il a délivrée sur une seule phrase de son péché de courtisane. Cette voix qu'il a exorcisée en un instant de ses 7 démons, cette voix qui a fait naître pour toujours la foi en elle. Pour les disciples d'Emmaüs, c'est la fraction du pain, ce geste qui a été inventé par le Christ et qui n'a été posé que par lui, ce geste de don maximal de soi que les apôtres ont admiré une seule fois et qu'ils ont raconté aux autres disciples durant le samedi saint. Et enfin, pour les 7 disciples, c'est la pêche miraculeuse et un repas préparé. En un mot, la générosité. Cette générosité à la fois exceptionnelle et quotidienne, qui s'est révélée à eux durant la vie publique de leur Seigneur, à travers ses 1000 prodiges retentissants et à travers ses 10 000 attentions discrètes, à travers la guérison des 10 lépreux et à travers ce retour de mission où le Christ a emmené ses disciples à l'écart pour écouter pendant des heures toutes leurs anecdotes et pour qu'ils se reposent ensuite. Voyez, dans ces 3 cas, les protagonistes ont reconnu le Christ à travers une attitude amoureuse de son corps, la manière de prononcer un prénom, la manière de rompre le pain, la manière de préparer un repas. Et si l'on regarde l'épisode que nous avons lu dimanche dernier, au cours duquel l'apôtre Thomas accède à la foi en la résurrection, c'est encore plus fort. Comment est-ce que saint Thomas est passé de l'incrédulité à la crédulité? C'est tout simple. Le Christ lui a montré les plaies de ses mains, de ses pieds et de son cœur, et alors il a reconnu son Seigneur et son Dieu. Ici, ce n'est donc pas seulement une attitude amoureuse du Christ, mais carrément des marques d'amour dans le corps du Christ qui ont permis à Thomas de le dévisager. Ce qui ressort donc de tous ces récits, mes frères, c'est que le Christ est reconnu dans son corps glorieux, pas d'abord grâce à son visage, mais grâce aux marques d'amour que son corps glorieux à récupérer du corps historique. Notre Seigneur est mort par amour pour nous sur la croix, et c'est à travers les plaies de la crucifixion que son corps glorieux est reconnaissable. Ce sont donc ces marques amoureuses qui rendent le corps glorieux du Christ unique, mais aussi splendide, car dans les apparitions de Jésus au cours de l'histoire de l'Église, ce qui est lumineux dans son corps, ce sont ses plaies d'où sortent des rayons. Eh bien, mes frères, tout cela implique pour nous que notre corps glorieux sera à l'image de notre amour sur terre. Ce sont les marques que nous aurons reçues sur terre en conséquence de notre amour qui feront la beauté lumineuse de notre corps au paradis. Aussi, je vous en supplie, soyez heureux de toutes les marques de votre corps qui sont les conséquences de votre amour. Les cernes et les rides à cause des nuits écourtées et des journées élongées pour vos enfants ou pour vos amis. Les corps parfois déformés à cause des grossesses et des accouchements. Les cheveux perdus à cause des soucis. Les dos cassés à cause des heures passées dans les vignes pour nourrir votre famille. Toutes ces marques, soyez-en fiers, elles seront votre éclat au ciel. Alors que ceux qui ne font pas d'enfants pour garder leur ligne, ceux qui prennent souvent des vacances pour être toujours reposés, ceux qui cumulent avec exagération les séances chez l'esthéticienne ou chez le chirurgien pour avoir un air de 20 ans à 60 ans, toutes ces personnes, une fois que leur corps aura été passé au feu de l'amour divin, qui brûle tout ce qui n'est pas de l'amour, elles auront un corps glorieux sans saveur, sans éclat, sans relief, un corps fade, éternellement fade. En vous disant cela, mes frères, je ne vous pousse pas à faire n'importe quoi. Bien sûr, il convient que nous nous reposions, que nous prenions soin de notre santé, que nous soignions notre apparence, que nous développions des passions. Mais il faut tout de même que l'amour, autrement dit le don de soi, se taille la plus grande part du gâteau de notre existence, et que nous sacrifions donc pour les autres certains plaisirs et même certains besoins jusqu'à en être marqués physiquement. Et pour que cela advienne en nos vies, mes frères, je vous propose de mettre en application chaque jour ce conseil du pape Jean XXIII. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire. Et si je suis offensé en la faisant, j'essaierai de faire en sorte que personne ne le sache. Tous les soirs, mes frères, nous devons nous coucher en ayant fait par amour quelque chose que nous ne voulions pas faire. Certes, qui agit ainsi perdra de sa lueur physique ici-bas. Il sera fatigué et vieilli, mais là-haut, son corps resplendira de toutes parts. Mes frères, il faut que le jour de notre mort, nous soyons usés jusqu'à la corde, usés par l'amour. Si nous mourons en pleine forme, si nous mourons avec un corps qui pourrait être utilisé encore 10 ou 20 ans, si notre cercueil contient un corps en bon état, c'est que nous avons raté l'amour, mes frères. La porte du ciel s'ouvre facilement quand on la pousse avec des mains meurtries. Ne l'oublions jamais. Amen.